VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de ce mercredi 11 février 2015. À la une ce soir, Morgane.
Le Nigeria, Goodluck Jonathan, s'exprime ce soir sur le report de la présidentielle.
En Centrafrique, soulagement après la libération du ministre de la Jeunesse et des Sports, Armel Ningatoloum.
Jouit de toutes ses facultés morales, mentales, physiques. Il se porte bien.
En RDC, le chef de la mission onusienne s'est expliqué sur la suspension du soutien à l'offensive contre les FDLR.
Conflit ukrainien, sommet de la dernière chance à Minsk en Bélarus, alors que les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. On commence en Centrafrique.
Soulagement après la libération du ministre de la Jeunesse et des Sports, Armel Ningatoloum Sayo, enlevé depuis le 25 janvier dernier. Selon son frère Daniel Tomté Sayo, il se porte bien. Écoutons-le au micro de Félix Yepassi Zembro.
Il se porte très bien, il jouit de toutes ses facultés morales, mentales, physiques. Il se porte bien. Là, présentement, nous tenons à remercier le ministre de la Sécurité publique, le Premier ministre et la présidente de la transition. Pour le nom de ses ravisseurs, il vous le dira lui-même. Ce que je sais, c'est que c'est le gouvernement qui a mené toutes les démarches, toutes les négociations pour que mon frère soit libéré aujourd'hui. Donc je ne sais pas ce que le gouvernement a fait.
Lutte contre les FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ONU, qui a déjà annoncé la suspension de son soutien aux forces gouvernementales, indique que des discussions sont en cours avec Kinshasa au sujet des généraux contestés. On écoute Martin Kobler, le patron de la mission onusienne en RDC.
On est en discussion avec le gouvernement sur la question de la politique de diligence par rapport aux droits de l'homme. Pour nous, c'est très important d'avoir une solution dans un esprit de constructivité et je n'ai aucun doute que les problèmes sont résolus parce que nous voulons pleinement, comme j'ai dit, soutenir les opérations. C'est le mandat et c'est aussi le désir de la population. Mais c'est une question qui est discutée entre la MONUSCO et le gouvernement. C'est pas discuté avec la presse et avec le gouvernement parce que nous voulons avoir qu'on a la résolution de ces problèmes qui émanent de la politique, du respect de la politique de diligence par rapport des droits de l'homme. C'est très important d'avoir, de partager les plans, d'avoir des mesures en place afin que la population civile ne souffre pas dans les opérations. C'est pour nous très important d'avoir des mesures en place, de superviser, de faire partie des opérations.
Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan doit s'exprimer à la télévision ce soir sur la crise sécuritaire ayant entraîné le report de la présidentielle. Pendant ce temps, de nouveaux combats ont opposé ce mercredi même les islamistes de Boko Haram à l'armée tchadienne sur le sol nigérian. Jacques Aristide.
Les insurgés nigérians ont de nouveau attaqué ce mercredi matin la ville de Gamboru dans le nord-est du Nigeria, là où s'est positionnée l'armée tchadienne qui a pu repousser l'assaut d'après une source militaire tchadienne que cite l'AFP. Plusieurs éléments de Boko Haram ont été tués, selon la même source qui a également fait état d'un soldat tchadien tué et de 8 blessés. 3 des 14 véhicules des assaillants ont été détruits. Ils étaient aussi arrivés avec 2 blindés, mais le militaire tchadien a indiqué que les soldats de son pays étaient déjà préparés puisqu'ils étaient au courant d'une attaque imminente depuis la veille. Ce même mercredi, le chef de l'État nigérian doit répondre aux questions des journalistes et des téléspectateurs en direct à la télévision. La première intervention publique de Goodluck Jonathan depuis le report des élections 28 mars. Cette décision a été fustigée par l'opposition, la société civile et des pays occidentaux, dont les États-Unis.
Nouveau drame de l'immigration clandestine vers l'Europe. Plus de 300 migrants partis de Libye ont été engloutis dans la Méditerranée. Déjà dimanche, 29 migrants sont morts de froid au large des côtes libyennes. Ils tentaient tous de regagner l'île italienne de Lampedusa. Idriss Fall a fait le point avec Florence Kim de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration à Genève.
On en est à 9 survivants et plus de 300 disparus, voire 350. Les 100 derniers qui étaient sur le dernier bateau sont perdus. Ils étaient partis de 15 km depuis les plages à côté de Tripoli, en Libye. Les passeurs, mais ils ont envoyé plus de 4 bateaux à une tempête en mer, dans des conditions en principe qui les dissuadent, du moins qui les limitent un petit peu à envoyer en général les bateaux. Cette fois-ci, on voit très bien qu'ils n'attendent même plus des conditions plus propices à l'envoi des bateaux.
D'autant que dimanche, une trentaine de migrants sont morts de froid aussi.
Oui, tout à fait. Oui, ça c'était avant-hier, effectivement. Donc on en est à 29 lundi, et puis là, plus de 300 portés disparus, voire morts.
Florence Kéam de l'OIM à Genève. Au Burundi, la société civile appelle le président Pierre Nkurunziza à annoncer qu'il ne cherchera pas à briguer un troisième mandat. C'est ce qu'indique l'AFP. Le collectif Campagne citoyenne, halte au troisième mandat, affirme avoir déjà demandé au chef de l'État burundais de s'abstenir de se représenter, mais leur lettre serait restée sans réponse.
L'armée soudanaise accusée de viol massif au Darfour. Human Rights Watch dénombre plus de 200 femmes et filles violées en 36 heures lors d'une attaque menée en octobre 2014 contre la ville de Tabit. L'ONG américaine, qui parle de crimes contre l'humanité, estime que le gouvernement soudanais devrait cesser de nier cette réalité et accorder immédiatement un accès à Tabit aux troupes de maintien de la paix et à des enquêteurs internationaux. L'ONU et l'Union africaine devraient exiger la protection des civils et l'ouverture d'une enquête internationale, conclut Human Rights Watch.
Choléra dans le nord du Mozambique, l'épidémie qui a fait au moins 19 morts intervient suite aux inondations qui ravagent le pays depuis un mois. Au total, les autorités citées par l'AFP recensent 1702 cas diagnostiqués. La diarrhée et le choléra sont des maladies fréquentes au Mozambique en raison des pluies.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Rencontre cruciale ce mercredi entre la Grèce et ses créanciers européens. Athènes souhaite changer les conditions de la dette et l'allègement des mesures d'austérité imposées par l'Union européenne. Précisément, Athènes réclame des 18 pays du bloc euro, de la BCE et du FMI un nouveau prêt et du temps additionnel pour négocier des changements aux mesures qui ont accompagné les plans de sauvetage consentis par l'Union. Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, était aujourd'hui en conclave avec ses homologues européens à Bruxelles et parlant aussi de ce sommet de la dernière chance à Minsk dans le Bélarus aujourd'hui sur le conflit ukrainien.
En Conseil des ministres, ce mercredi, le président ukrainien Petro Poroshenko s'est dit prêt à introduire la loi martiale sur tout le territoire. Une telle mesure autoriserait Kiev à instaurer un couvre-feu, la censure, limiter la liberté de circulation ou interdire les partis politiques dont l'activité menacerait la souveraineté du pays. Monsieur Poroshenko a également affirmé que Kiev, le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel parleraient d'une seule voix à Minsk pour réclamer un cessez-le-feu inconditionnel. Mardi, Barack Obama avait parlé au téléphone avec Vladimir Poutine pour lui demander de soutenir tout accord de paix. Sur le terrain, de nouveaux combats ont fait au moins 2 morts dans la ville de Donetsk, tenue par les séparatistes pro-russes. À Debaltseve, 19 soldats de l'armée ukrainienne sont morts, 79 autres ont été blessés. Au total, ce conflit en Ukraine a fait au moins 5300 morts depuis 10 mois.
Au Yémen, plusieurs pays occidentaux ont annoncé la fermeture de leurs ambassades du fait de la dégradation de la situation sécuritaire. D'après la Grande-Bretagne et les États-Unis, la France aussi a décidé de fermer sa mission diplomatique à Sanaa. Aujourd'hui, des milices chiites ont saisi 3 véhicules diplomatiques américains à l'aéroport de Sanaa, peu après le départ de l'ambassadeur américain, rapporte l'AFP, citant des sources diplomatiques et aéroportuaires. La puissante milice chiite contrôle la capitale yéménite depuis septembre. Vendredi, elle a annoncé la dissolution du Parlement et la formation d'un nouveau conseil de 551 membres pour remplacer l'Assemblée. Un accord politique se fait encore attendre.
Nucléaire iranien, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a appelé ce mercredi Téhéran et les grandes puissances à trouver un bon accord avant la date butoir fixée à fin mars pour un accord politique. Ensuite, les parties auront jusqu'au 1er juillet pour s'entendre sur les détails techniques du dit accord. Le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif, a eu plusieurs entretiens en début de semaine en marge de la conférence sur la sécurité à Munich. Téhéran affirme n'avoir que des objectifs pacifiques pour son programme nucléaire, mais les puissances mondiales, le groupe 5+1, veulent des méthodes de vérification sûres et un accord global avant la levée totale des sanctions économiques imposées à l'Iran.
Les négociations internationales sur le climat se poursuivaient ce mercredi à Genève autour du texte du futur accord de Paris. Selon l'AFP, en 3 jours, ce document a plus que doublé de volume pour intégrer l'ensemble des positions. L'ONG Greenpeace se montre optimiste, voyant dans ce texte préliminaire le reflet d'une nouvelle dynamique et d'un esprit d'ouverture. La conférence de Genève réunit 195 pays. Les délégués ont jusqu'à vendredi pour préparer une première version du projet d'accord.
Ici aux États-Unis, 3 membres d'une même famille ont été tués en Caroline du Nord, dans l'est du pays. Y a-t-il un motif religieux derrière cet acte? C'est la question posée aujourd'hui par le leader d'une importante organisation musulmane, Nihad Awad, qui réclame une enquête policière. Les 3 victimes, un homme de 23 ans, son épouse de 21 ans et sa belle-sœur de 19 ans, sont des musulmans. Voilà pour le journal Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Place au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Le Maroc prépare sa riposte après l'annonce de sa suspension de toute participation aux Cannes 2017 et 2019.
Oui, la fédération marocaine se déclare grandement étonnée des mesures annoncées par la CAF et affirme qu'elles ne correspondent en rien aux conclusions de la réunion tenue préalablement au Caire avec le président de la CAF. Le comité directeur de la fédération royale marocaine rejette l'ensemble des sanctions sportives et financières. La fédération pourrait faire appel.
Le tribunal arbitral du sport a donné gain de cause à la JS Kabylie.
Saisi par le club algérien pour son interdiction de participer aux compétitions interclubs de la CAF, pendant 2 ans, le TAS a levé la sanction. Souvenez-vous, après avoir été sanctionné par la fédération algérienne suite à l'affaire Ebossé, la JSK s'était vue interdite de toute participation aux compétitions interclubs de la CAF durant les saisons 2015 et 2016.
Et on reparle de la mort de Samuel Wanjiru, qui serait bien criminel.
Un ancien médecin légiste du gouvernement kényan a confirmé que l'ancien champion olympique avait bien été tué en 2011 et qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Souvenez-vous, Samuel Wanjiru est décédé le 16 mai 2011 à l'âge de 24 ans seulement. Il avait remporté 4 marathons à Pékin en 2008. Seulement âgé de 21 ans, il était devenu le premier kényan à décrocher l'or olympique dans cette discipline.
Et pour finir, le championnat nord-américain de basketball, la NBA, les résultats de la nuit dernière.
Le meilleur marqueur de la saison, James Harden, a encore frappé 40 points, 12 rebonds et 9 passes décisives. Il permet à Houston de s'imposer sur le parquet de Phoenix 127-118. Houston confirme sa 3e place dans la conférence Ouest. Derrière, Golden State, intouchable leader qui ne jouait pas hier, et Memphis qui s'est imposé contre Brooklyn 95-86. Malgré leur 5e défaite en 6 matchs, les Suns de Phoenix restent donc à la 8e place de la conférence Ouest. À domicile, Chicago a lui facilement battu Sacramento 104-86. Les deux derniers résultats de la soirée, les Lakers de Los Angeles qui s'inclinent face à Denver 96-106 et puis Charlotte qui s'incline également à domicile face à Détroit 78-106.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Et nous passons maintenant à la Minute Éco avec Nathalie Barche.
Le scandale fiscal SwissLeaks dévoilé par Le Monde a touché de plein front les pays africains. Parmi les 100 pays comptant le plus d'évasion fiscale via la filiale suisse d'HSBC figurent 19 États africains dont l'Afrique du Sud et le Maroc en tête de liste. La RDC, le Rwanda et Djibouti sont également cités. La Côte d'Ivoire aurait perdu plus de 191 millions de dollars, soit l'équivalent de 39% du budget santé, et il en serait de même pour le Sénégal. J'ai contacté à Dakar Pierre-Édouard Faye, rédacteur en chef de Wolf TV.
Le nombre quoi, des personnes, ou bien le montant même de l'argent planqué en Suisse, dans un pays aussi pauvre comme le Sénégal, si on vous parle de plus de 90 milliards, ou bien je ne sais pas, de 900 milliards planqués quelque part en Suisse, il y a de quoi réfléchir.
La société canadienne Kinross a décidé de différer l'expansion de sa mine d'or de Tasiast en Mauritanie, visant une capacité 5 fois supérieure à l'actuelle. Vu les tendances des cours de l'or, l'entreprise ne pense pas être en mesure de financer ce projet de construction de 3 ans. Le Forum Africa-France a débouché sur la création d'une fondation pour la formation professionnelle des jeunes en Afrique. Lionel Zinsou, président d'Africa-France, a déclaré que c'était la principale préoccupation des entreprises. La valorisation des jeunes talents reste une priorité en Afrique, a souligné le président sénégalais Macky Sall, qui était présent au forum.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guerrier, à votre compagnie, place au dossier du jour. Le gouvernement congolais a présenté hier au public Christophe Ngoyi Mutamba. Ce leader associatif était jusque-là détenu en secret depuis 3 semaines, Morgane, suite aux événements du mois dernier.
Le ministre congolais de l'Intérieur, Évariste Boshab, a déclaré qu'il serait jugé pour avoir tenté de renverser les institutions de la République. Une décision contestée par Martin Fayoulou, président du collectif Sauvons la RDC. Il était présent dans nos studios hier. Nicolas Pinault a recueilli la réaction de Martin Fayoulou.
La situation aujourd'hui est toujours confuse. J'ai mon collègue Christopher Ngoyi Mutamba, qui est introuvable jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons sous une dictature et aujourd'hui, nous demandons où se trouve Christopher. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il n'est pas vivant? Comment comprendre qu'un gouvernement qui s'est dit démocrate, et ce gouvernement se permet de priver les gens de leur liberté fondamentale? Comment on peut priver des gens des communications? Comment on peut soustraire quelqu'un de sa famille, de ses amis, pour le mettre où on ne sait pas? Donc nous disons aujourd'hui que M. Kabila constitue le problème au Congo, et c'est pour cela que nous nous battons pour que la constitution soit respectée, pour qu'il y ait élection en 2016, et ça c'est pour nous très très important.
Concernant le recensement électoral, certains diront que c'est la garantie de la bonne tenue du scrutin et qu'il faut justement organiser ce recensement électoral. Quelle est votre réponse?
C'est la ruse. Le recensement, ce n'est pas la garantie. Nous avons besoin de recensement pour beaucoup d'autres choses. Mais est-ce que vous savez que le recensement a été prescrit depuis août 2009? Depuis août, ça fait plus de 5 ans. Pourquoi ils n'ont pas fait le recensement? Nous pensons aujourd'hui que le recensement que veut M. Kabila, ça procède de sa stratégie de glissement. Nous disons aujourd'hui que le Congo, 2 345 000 km² n'a pas de moyens, n'a pas d'infrastructures, n'a pas de compétences pour organiser un recensement crédible. Donc nous avons un système, nous avons une loi pour l'enrôlement des électeurs. Il faut tout simplement enrôler les électeurs, ça va prendre 5 à 6 mois.
Une candidature unique de l'opposition, c'est un faux débat selon vous?
Non, ce n'est pas un faux débat. Nous sommes dans un système où M. Kabila, le 11 janvier 2011, a changé d'une façon intempestive la Constitution. Il faut s'adapter. Nous avons voulu une candidature unique en 2011. On ne l'a pas eu, malheureusement. Et cette fois-ci, nous voulons une candidature unique. Mais une candidature qui va se faire avec l'aide de la population. Aux États-Unis, ici, vous avez des primaires. Il faut trouver une sorte de primaire à la congolaise, où la population va dire qui elle veut exactement pour présider sa destinée.
Des primaires auxquelles participeraient l'UDPS et l'UNC?
Auxquelles participerait toute personne qui veut se positionner à ce niveau.
Martin Fayoulou, président du collectif Sauvons la RDC, dans les studios de VOA Afrique à Washington.
Jacques Aristide, avec vous, ce jeudi dans Washington Forum, le report très critiqué des élections au Nigeria face au danger Boko Haram. Une crise électorale se profile-t-elle à l'horizon dans ce pays fragilisé? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Cap maintenant sur la Côte d'Ivoire, le 3e pont d'Abidjan a montré ses faiblesses après la première pluie qui s'est abattue sur la capitale économique. Ces déficiences viennent créer le doute chez les usagers, comme nous l'explique notre correspondant Germain Dri.
Le troisième pont d'Abidjan, pont Henri Konabédié, qui fait la fierté des Ivoiriens, a fait ressortir quelques défaillances ce week-end après la première pluie tombée après sa livraison. Devant la grandeur et le niveau architectural de l'œuvre, les usagers se posent beaucoup de questions. Dieudonné Ognien.
Si c'était en période de grande pluie, alors quand serait-il de ce pont aujourd'hui? Il y a plein d'interrogations comme ça qui sont en suspens. Le pont a pris de l'eau de toutes parts et les Abidjanais sont étonnés de savoir qu'un ouvrage qui a été aussi cher connaisse vraiment des difficultés seulement quelques mois après sa mise en service.
Jean-Claude Aquet, ce chantier-là, il a redoré le blason de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'il y a eu des études faites au préalable? Bon, là, c'est une question qu'il faut se poser.
Quelques-uns se disent surpris. Cher Koné.
C'est l'étonnement d'abord, puisque nous connaissons les coûts qu'ont engagé ces travaux. Nous connaissons également l'expertise du groupe qui a conceptionné cet ouvrage-là. Je me demande bien comment ont été faites les études avant de lancer ce projet. Parce que après une pluie de 45 minutes, nous ne sommes même pas en saison pluvieuse, et que nous constatons déjà que le troisième pont a été inondé. Franchement, je reste sur ma faim et j'attends que les autorités nous donnent quand même des explications.
Noël Konange, le peuple ivoirien a droit à un pont de qualité et surtout pouvoir circuler sans craindre d'autres risques comme l'inondation à laquelle on assiste.
Pour Akanyi Emmanuel, il faut corriger les irrégularités constatées.
Je pense qu'il faut laisser le temps aux promoteurs, à l'équipe qui a dirigé les chantiers, de pouvoir faire les corrections. C'est-à-dire que ces éléments-là ne doivent pas nous faire oublier que c'est un ouvrage utile et que malgré ces défaillances-là, restera toujours utile, même s'il peut y avoir des choses à corriger. La polémique sur le pont, pour moi, ne devrait pas être à ce niveau. Le pont, il est utile. Le pont, il est beau. La polémique devrait être plutôt au niveau de la durée de la concession. Ce que l'Ivoirien doit payer sur au moins 30 ans pour espérer pouvoir passer sur le pont sans péage ou que ce revenu-là revienne, n'est-ce pas, aux caisses de l'État.
Tous souhaitent qu'une analyse soit faite pour remédier à toutes ces défaillances.
Les autorités gouvernementales devront vraiment mener des enquêtes pour voir au niveau du Bénet qu'est-ce qui n'a pas marché, s'il faut reprendre le drainage et voir tous ces
Nous estimons que le gouvernement doit pouvoir prendre ses responsabilités afin de rattraper ce qu'il y a à rattraper pour que les Ivoiriens soient rassurés afin d'emprunter ce pont-là. Parce que ce pont, quoi qu'on dise, il est à péage.
Le pont Henri Konabédié a été inauguré le 16 décembre dernier et a coûté 232 millions d'euros. Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Bénin, le chemin qui conduit à l'obtention effective de la LEPI, liste électorale informatisée, reste parsemé d'embûches. L'affichage qui doit recueillir les diverses réclamations des populations ne suscite pas grand enthousiasme, alors que ceux chargés de recevoir ces réclamations sont mécontents pour cause de primes non perçues. Toute chose qui n'augure pas une issue heureuse pour la fin du processus. On écoute le reportage de Peggy Ludovic Dagba, notre correspondant à Cotonou.
Démarré depuis le 27 janvier 2015, l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire est entré dans sa deuxième phase depuis le 5 février dernier. Celle des réclamations qui devront être faites par rapport aux différentes mentions non conformes à la réalité des pétitionnaires. Madame Paloma Ketchakpe, agent local d'actualisation, nous renseigne ici sur les types de réclamations attendues.
C'est ceux qui ont leur nom sur la liste, ceux qui ont trouvé leur photo et leur nom, ou qui n'ont pas trouvé leur nom et leur photo sur la liste, mais qui ont leurs cartes LEPI avec eux. Ceux qui ne doivent pas venir faire les réclamations, c'est ceux qui n'ont pas trouvé leur nom sur la liste et n'ont pas encore de carte de LEPI. Ils nous ont dit, beaucoup de nos formations, qu'ils devraient attendre une autre phase pour encore se faire enregistrer. Ceux qui ont une carte, mais qui n'ont pas retrouvé leur nom et leur photo, peuvent venir, on va encore les enregistrer. Là, il n'y a pas de problème.
C'est une phase très importante pour la fiabilité de l'outil. Malheureusement, les populations ne sortent pas, déplore Innocent Djikwale, chef quartier Kwakomin, un quartier de l'arrondissement de Godoma, situé à l'ouest de Cotonou.
Ceux qui sont chargés de prendre les réclamations ne viennent pas. Ça fait même que s'il y en a qui ont vu qu'il y a des erreurs dans l'affichage, voilà que depuis le 5 jusqu'à, disons, dimanche, ils ne voient personne, donc ça fait que les gens même ont cessé même de sortir
Différents problèmes notés lors de l'opération d'affichage trouvent leur source dans le non-respect par les responsables du COSLEPI des engagements pris vis-à-vis des agents recrutés pour l'opération, ce qui fâche ces derniers. L'un d'eux a requis l'anonymat pour nous raconter leur mésaventure.
Comment pouvez-vous expliquer qu'on a travaillé 21 jours? Moi, j'ai été, par exemple, au Pékit. Un Pékit est appelé à toucher les 10 doigts. Au moment où l'ASA battait son plein, un Pékit est appelé à toucher tous les 10 doigts de chaque personne. Et on a enregistré des centaines de personnes dans les appareils kits. Au début, ils avaient dit, on a toujours été satisfait par les rumeurs. Les rumeurs, soi-disant qu'au début, on sera payé à 12 000 francs. Après, on a appris 8 000 francs, les Pékits. Après, on a appris 5 500. Donc, le vice-président du système COSLEPI, il était venu à la télé, soit disant que le dernier des agents sera payé à 4 000 francs. Donc, nous, on s'attendait à être payé au minimum à 5 000 francs. Imaginez-vous, on nous a payé à 2 500 francs. Et combien de mois après? Jusqu'à présent, maintenant, tout le monde n'a pas été encore payé. Voilà que le processus suit encore son cours.
À cette allure, le délai du 23 février 2015, prévu pour la livraison effective de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, pourra-t-il être respecté? Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Revenons sur le problème des délestages récurrents en Afrique. Riche ou pauvre, personne n'est épargné. On écoute ce soir Michel Joseph.
Une petite entreprise de Nairobi avait débuté par la location des costumes de fête et s'est maintenant développée dans le secteur des services aux restaurants et aux supermarchés. L'entreprise fournit plus d'une tonne de crème glacée par jour. C'est une histoire à succès, mais pour Betty Mbite, qui gère cette petite compagnie, le manque d'électricité met en péril ses activités.
À un moment, l'année dernière, lorsque nous sommes restés 3 jours sans électricité, nous ne pouvions rien faire du tout parce que les machines ont besoin du jus pour marcher, une chambre froide a besoin d'électricité et aucun travail ne peut être fait sans électricité.
Pour garder ses clients heureux, il faut donc du courant 24 heures sur 24, car sans courant, il n'y a pas de glace. L'électricité est donc l'une des premières dépenses de cette compagnie. Le problème n'est pas spécifique au Kenya. On le rencontre dans presque tous les pays africains. L'électricité est souvent inaccessible, trop chère et trop souvent non disponible. Quelques 600 millions d'Africains n'y ont pas accès. Le continent consomme moins d'électricité que partout au monde, mais paye le même tarif qu'aux États-Unis et le double de celui en vigueur en Asie de l'Est. Donald Kaberuka, président de la BAD, la Banque africaine de développement, au forum de Davos cette année.
At this moment, every single African country is experiencing energy.
En ce moment, chaque pays africain subit des pénuries d'énergie et des coupures de courant. Cela coûte au continent 2% de son produit intérieur brut. En fait, un leader africain dit que nous sommes un continent de miracles. Si nous avons une croissance de l'ordre de 5% sans assez de courant, imaginez ce que ce serait si nous avions suffisamment d'électricité.
Selon lui, le manque d'infrastructures est l'un des plus gros défis pour la distribution du courant. Même des pays riches comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria en arrivent à rationner le courant. Et d'après le patron de la BAD, Donald Kaberuka, la solution ne saurait être pays par pays, individuellement.
It is not possible for our individual 54 countries.
C'est impossible pour nos 54 pays pris individuellement d'avoir la sécurité énergétique à partir de leurs ressources domestiques. Nous devons créer un marché régional viable pour l'électricité. Et ça, c'est possible.
Bien sûr, les investisseurs mettent de l'argent pour des projets d'énergie renouvelable sur le continent. Cela aide un peu, mais il y a beaucoup à faire pour combler le fossé.
Salut les amis, Roger Moutou, VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show. À 20h, temps universel, nous allons écouter de la bonne musique country. Seulement dans RM Show. Et bien sûr, rappelez-vous que notre sujet de la semaine continue.
Que doit-on retenir de cette CAN qui vient de s'achever? CAN 2015, quel est le bilan selon vous? Citez quelques événements de la CAN qui vous ont marqué. Plusieurs polémiques ont éclaté durant le tournoi de la CAN 2015. Citez-en quelques-unes, seulement ici dans RM Show. Appelez au 001-202-619-3140 ou envoyez-nous vos textos au 225-58-92-8540. Encore une fois, vos SMS au 225-58-92-8540. De la bonne musique traditionnelle, seulement ici sur VOA Afrique.
La mise en onde de cette édition était assurée par Joselle Morissin à la présentation, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil.
À la présentation, et ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Diffusé partout en Afrique francophone sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA.